Radio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. La chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, regrette les tensions entre les autorités de la transition et les partenaires internationaux. Pour elle, ce sont les civils qui subissent plus les conséquences de l'embargo imposé au pays. Insécurité, des affrontements entre le mouvement pour le salut de l'Azawad et l'IGS se poursuivent à la frontière Mali-Niger. Des morts et des blessés seraient enregistrés des deux côtés selon des sources locales. Malgré la baisse considérable du taux de contamination à la maladie à coronavirus ces derniers temps, les spécialistes de la santé invitent les populations à respecter les mesures barrières. Les détails dans ce journal. Je suis Hamsetou Touré à la présentation. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies dit regretter l'impact des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA sur les Maliens ordinaires. Déclaration faite mardi dernier devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Depuis plus de deux mois maintenant, le pays est sous sanction de ces deux organisations ouest-africaines à cause du non-respect du délai de la transition. Une mission de la CEDEAO a quitté le Mali il y a quelques semaines sans parvenir à un accord avec les autorités de la transition. Mamadou Samassikou.
Pour Michelle Bachelet, ce sont les civils qui subissent le plus les conséquences de l'embargo imposé au pays. La chef des droits de l'homme de l'ONU regrette aussi la tension persistante entre les autorités de la transition et plusieurs partenaires régionaux et internationaux. Elle demande au gouvernement de travailler de manière constructive avec les 10 partenaires et faire ainsi avancer les droits des citoyens. Michelle Bachelet a indiqué qu'il est essentiel d'assurer une transition rapide vers la démocratie et un retour complet à l'ordre constitutionnel. Sur le plan sécuritaire, elle affirme que l'environnement sécuritaire au Mali reste précaire. Cela, en dépit d'une logique la réduction du nombre d'incidents sécuritaires, dit-elle. La patronne du Conseil des droits de l'homme de l'ONU fait état de la poursuite des attaques contre les civils, les disparitions forcées et les enlèvements qui ont plus que doublé en 2021. Deux mois après les sanctions contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA, difficile d'en dire sur les discussions entre les parties. Une mission de la CEDEAO a séjourné à Bamako il y a quelques semaines. Dirigée par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan, la délégation n'a pu trouver un accord avec les autorités du Mali. Le médiateur de la CEDEAO a toutefois indiqué que les échanges ont été fructueux et qu'ils vont se poursuivre.
Sur le même sujet, les sanctions sur le Mali pourraient à la longue impacter de façon considérable l'économie du pays. C'est ce qu'estime l'économiste Modibo Mao Makalou. Selon lui, la ration de 312 milliards que la BCAO a accordée au Mali ne permettra pas l'approvisionnement des banques maliennes. Écoutons sa réaction. Il est joint par Mohamed Ali Ag Aleida.
Le terme technique en anglais, c'est « open market operation ». Donc, c'est cela qui a été mal compris en disant que le Mali va recevoir 312 milliards. En réalité, vous savez, les banques commerciales du Mali, la dernière semaine de février, ont demandé 367 milliards pour pouvoir financer leurs opérations. Mais elles n'ont reçu que 312 milliards et c'est ce ratio qui fait 85% des liquidités. Donc ça veut dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est en train de rationner l'argent que les banques commerciales doivent recevoir. Il y a des difficultés et ça va pénaliser encore les commerçants maliens, ceux qui vont importer, mais aussi le citoyen lambda. Vraiment, c'est malheureux et j'espère de tous mes voeux que ces sanctions seront levées avant le mois de carême parce que ça va nous causer des difficultés.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent le droit humain et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme, a déclaré le gouvernement malien ce mercredi soir dans un communiqué. Cette annonce aux accusations de la Mauritanie sur la disparition d'une trentaine de Mauritaniens au sud d'Adel Bagrou, un village situé à 50 km de Nara. Par ailleurs, les autorités maliennes annoncent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et l'envoi d'une mission de haut niveau à Nouakchott dans un délai bref. Je l'annonçais dans les titres, plus d'une quarantaine de terroristes ont été neutralisés dans le cadre de l'opération Malico. Ces chiffres ont été communiqués ce mercredi par le directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Ces opérations militaires ont également permis de récupérer des armes de guerre et le désarmement des chasseurs en possession de huit armes. Au même moment, des sources locales ont annoncé l'arrestation de plus d'une dizaine de terroristes dans la zone de Zanankoro, dans la commune de Kolongo, par les forces armées et de sécurité. Les détails avec Imran Akulumaïga.
Selon le bilan établi par les forces armées maliennes, 18 terroristes ont été neutralisés dans une embuscade dans la forêt de Ouagadou. Dans le communiqué, les FAMA affirment avoir neutralisé 5 poseurs d'engins explosifs dans les régions de Mopti et Bandiagara. À cela s'ajoute aussi la récupération des armes de guerre, dont AK-47, 6 fusils et une lance-roquette anti-char. Par ailleurs, le document explique que dans le secteur de Nyono, une unité FAMA a désarmé des chasseurs en possession de 8 pistolets mitrailleurs. Le chef d'état-major de l'armée indique qu'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés dans une frappe aérienne dans la localité de Karg, à une trentaine de kilomètres de Sévaré. Le colonel Dombele fait aussi savoir que des reconnaissances offensives ont été menées dans la région de Ségou. Le bilan de cette opération est de 2 blessés après l'immobilisation d'un véhicule suspect. Par ailleurs, 66 fusils de chasse, 10 pistolets automatiques, 6 AK-47 et une quantité importante de munitions ont été récupérés dans le secteur de Bankas et région de Mopti. Des sources locales à Massina rapportent qu'une dizaine de terroristes auraient été arrêtés ce mercredi dans la zone de Zankoro, commune de Kolongo, par l'armée malienne.
Le mouvement pour le salut de l'Azawad, branche de la plateforme l'IGS, s'affronte depuis 4 jours dans les localités d'Inchinanan et Tamalette dans le cercle d'Anderaboukane. Selon des sources locales, les affrontements sont très violents. Il y aurait des morts et des blessés des deux côtés. Le point avec Adama Amadou Haïdara.
C'est le 7 mars dernier que ces affrontements d'une rare violence ont commencé dans ces deux localités. Aucune information ne filtre sur les raisons de ces combats qui ont déjà fait des dizaines de déplacés. Dans un communiqué de la cellule de communication du MSA, on fait état de 4 morts et 2 blessés du côté MSA et 3 morts du côté des éléments de l'IGS. 3 autres blessés, dont une vieille femme, ont été évacués au CCRF de Menaka pour y recevoir des soins. Selon le même communiqué, c'est une position du MSA à Tamalette qui avait été attaquée le 8 mars. Les combats qui avaient cessé ont repris depuis hier et font rage dans la zone où les populations sont en train de se déplacer. Tamalette est un village malien à la frontière avec le Niger du côté sud-est. Quant à Inchinanan, il est à l'est d'Anderboukane et possède une grande foire fréquentée par des Maliens, des Nigériens et des Algériens. À cause de ces affrontements, la foire d'Anderboukane du mardi dernier a été désertée par les populations qui avaient peur que les combats ne se déplacent jusqu'au chef-lieu de cercle.
Autre sujet, une cinquantaine de jeunes de différents groupements politiques tiennent ce jeudi 10 mars une rencontre au Centre international de conférence de Bamako. L'objectif est de renforcer leurs compétences et de contribuer à l'apaisement du climat socio-politique, une activité organisée par le réseau des jeunes des partis politiques avec l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Notre reporter Draman Meiga était à l'ouverture de l'atelier.
Nous devons distinguer le jeu politique de la vie même du pays, estiment certains participants à cette rencontre. Pour eux, c'est une opportunité d'identifier les actions pour créer la confiance entre les politiques et les populations, mais aussi pour un Mali stable et qui avance.
Le rôle de la jeunesse, c'est de participer à l'apaisement politique pour consolider la paix.
Une partie de la rupture entre le citoyen et la politique, c'est aussi lié à la faillite de l'éducation nationale. Dans la construction de la citoyenneté dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes qui participent ici doivent se concentrer sur cette question-là.
Le représentant du ministre de l'administration territoriale félicite cette initiative. Il profite de l'occasion pour conseiller les jeunes hommes et femmes politiques. Modibo Traoré, chargé de mission.
Si la jeunesse veut aller au changement, mais il faut que la jeunesse elle-même accepte de changer.
Il est important que tous les acteurs, notamment les jeunes qui sont les plus nombreux, s'engagent à apporter des solutions, conclut Ibrahim Meiga, représentant régional de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite.
Une baisse considérable du taux de contamination à la maladie à coronavirus est constatée depuis un moment, indiquent les responsables sanitaires. Le responsable du centre de prise en charge de la COVID-19 à l'hôpital du Point G affirme qu'actuellement seulement moins d'une trentaine de patients sont hospitalisés au Point G. Ainsi, il pourrait y avoir un allègement dans le dispositif sanitaire à tous les niveaux, a-t-il dit. Cependant, le professeur Yakuba Toloba met toujours l'accent sur le respect des mesures barrières. Il est joint par Aïssata Diara.
Du point de vue épidémiologique, on a peu de malades hospitalisés, moins d'une trentaine, en tout cas à l'hôpital du Point G. Et aussi, il y a des malades qui sont positifs mais qui sont asymptomatiques, qu'on suit en ambulatoire. Globalement, on a une baisse drastique du taux, vous voyez, des dépistages même, de moins en moins de cas positifs.
Alors, mais qu'en est-il de la vaccination?
Elle progresse toujours, mais ce n'est pas à hauteur de souhait. Aujourd'hui, la vaccination est disponible, mais nous ne sommes pas à 100% population vaccinée ou pas, mais ça progresse. Il faut vous attendre à des dispositions, soit dans les sens d'allègement des procédures, surtout dans les sens du voyage, soit dans les sens même d'allègement au sein des communautés. Ça serait au cas par cas et ça serait aussi d'un pays à un autre pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région confrontée à un manque d'eau depuis plusieurs décennies. Les habitants de Kembe, dans la commune rurale de Diakan, cercle de Bafoulabé, ont construit deux retenues d'eau. Ces mini-barrages dont les travaux ont pris fin ce mercredi permettront aux habitants d'avoir l'eau en toute saison afin de subvenir à leurs besoins en eau, notamment l'abreuvage des animaux. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. Le magazine Tous les enfants du Mali. Au Mali, plusieurs enfants souffrent de la fente faciale ou le bec de lièvre. Selon les spécialistes sanitaires, plusieurs facteurs expliquent la maladie, dont l'hérédité ou l'environnement. Afin de redonner un espoir à ces enfants, une campagne de reconstruction faciale des enfants est en cours à l'hôpital Luxembourg de Bamako. Qu'est-ce que la maladie bec de lièvre? Comment est-elle soignée? Le magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse aujourd'hui à la reconstruction faciale des enfants qui souffrent de la fente faciale ou le bec de lièvre. C'est une présentation de Moussa Malé Sissoko et Adama Amadou Aïdara.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Pour des spécialistes sanitaires, cette reconstruction faciale intervient après un constat de la fente faciale ou bec de lièvre chez un enfant. Selon eux, elle se manifeste par une perte de substance de la lèvre supérieure et déforme souvent le nez et la bouche. Ils indiquent que la chirurgie permet de remodeler le visage de l'enfant pour lui redonner une forme plus acceptable. Écoutons les explications de Dr Fousseini Sissoko, spécialiste en chirurgie dentaire et chef de service bucco-dentaire de l'hôpital Luxembourg.
Une fente labiale ou palatine peut se définir comme étant une ouverture du segment de la lèvre supérieure ou du palais qui devait normalement se fermer du 5e semaine ou 9e semaine de la grossesse. Les causes peuvent être environnementales ou héréditaires. La plupart des temps aussi également, les études ont montré que les facteurs héréditaires, c'est-à-dire au niveau des gènes, qui sont les principales causes. Les femmes qui n'ont pas fait le suivi des CPN, chaque mercredi chez nous au Luxembourg dans les cabinets dentaires, peut avoir au moins 5 ou 6 personnes chaque jour que j'ai fait. Chez nous, ici, la prise en charge elle est gratuite. Même après l'intervention aussi également, tous les médicaments, on les donne gratuits. Donc tous les enfants sont intégrés. Et il y a une campagne de chirurgie gratuite, de reconstruction faciale, du 17 décembre jusqu'au 20. Donc on a prévu à peu près une cinquantaine d'enfants.
Tous les enfants du Mali, le magazine des enfants.
À présent, d'autres informations sur les enfants à l'intérieur du pays avec Adama Amadou Haïdara.
À Yorosso, des cas de rougeole détectés dans la commune de Kifosso. Selon un responsable du district sanitaire du Cercle, plusieurs cas suspects de rougeole ont été signalés la semaine dernière dans cette localité. Après les analyses, certains enfants sont déclarés positifs à la maladie. De source locale, les autorités sanitaires et scolaires ont pris des mesures pour isoler les enfants présentant les symptômes de la rougeole afin d'éviter une propagation en milieu scolaire.
À Kita, le premier cycle de Kita Gare 2, avec près de 600 élèves, souffre d'un manque criard de classes. L'établissement n'a pas de clôture ni d'électricité. La directrice de l'école dénonce l'effectif pléthorique et le recrutement de beaucoup d'enfants sans acte de naissance. Elle ajoute qu'une correspondance a été adressée à la mairie de la commune de Kita, qui demeure pour l'instant sans suite. Merci pour votre aimable écoute.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.